Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cinécure, la deuxième partie du double épisode sur le film Noir. En novembre dernier, je vous ai laissé en 1964 au cœur de ce que plusieurs cinéphiles appellent le Hollywood Breakdown. Ce mouvement, auquel je dédierai un épisode bientôt comme annoncé, va influencer et fortement marquer le reste des films américains qui se défont des studios et vont tenter d'aller montrer une autre facette, plus sombre et plus inquiétante de l'Amérique. Bien entendu, le film noir qui étudie depuis le début les passions humaines n'échappera pas à cette tendance qui va fortement influencer le genre. Dans les années 60, le code Hays a perdu de sa superbe, jusqu'à être abandonné complètement en 1966. Un autre système de classement des films se met en place, plus permissif, et vient remettre en cause l'existence même du film noir et sa nécessité. Avec l'essor du cinéma pornographique et l'influence que celui-ci va avoir sur le cinéma grand public, la sexualisation des corps féminins bien entendu, et les expérimentations des cinéastes qui cherchent à trouver les nouvelles limites de l'industrie et à les pousser au maximum, quelle légitimité a un genre comme celui dont je vous parle à continuer d'exister? Comment continuer d'être un agent provocateur dans un monde où tout devient plus ou moins provocation? La religion, la famille, la patrie, autant de valeurs défendues par le désormais disparu Code Hays et qui sont régulièrement attaquées par des films qui ont pour volonté de représenter le monde tel qu'il est devenu. Après une décennie d'exploration de films que l'on pourrait qualifier de neurotiques, c'est presque tout naturellement que jaillit ce que l'on appelle le nouvel Hollywood. Des cinéastes tels que Coppola, Scorsese, De Palma ou même Spielberg vont éclore avec ce nouveau mouvement qui va mettre définitivement fin à l'image du héros que Hollywood avait bâti. Les nouvelles stars, si elles continuent très largement à être des hommes, sont plus petites que la moyenne et souvent des losers, perdus dans un monde trop compliqué, déprimant et qui apparaît bien souvent comme dysfonctionnel. C'est donc tout naturellement que le premier film dont je vais vous parler présente un monde corrompu et où le code de conduite du détective privé est dévoyé. On y retrouve un Philip Marlowe, personnage mythique qui a été interprété notamment, mais pas que, par Humphrey Bogart, complètement paumé mais pas dépourvu d'humour. Après quoi, nous nous intéresserons aux années 80, une décennie de reprise de contrôle par les studios qui vont s'employer à remettre sur pied le héros, bien évidemment masculin, qui, par sa virilité, très souvent over the top, va réussir là où tous les autres échouent. Des figures comme Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, ou encore Bruce Willis, Harrison Ford, ou dans une moindre mesure Jean-Claude Van Damme, apparaissent et se font une place de choix. Le film noir, lui, évolue avec son temps, et le retour de la vertu, renouvelée certes, mais vertu quand même, va faire apparaître quelques propositions intéressantes, notamment sous la forme d'hommage. C'est le cas du film dont je vous parlerai, qui réunit deux énormes stars interprétant un scénario écrit et réalisé par l'homme derrière L'Empire Contre-Attaque et Indiana Jones et les Aventuriers de l'Arche Perdue. Enfin, nous nous dirigerons vers les années 90 pour une proposition tout à fait réjouissante dont je ne veux pas trop vous parler ici de peur de trop en dire. Disons simplement qu'en termes de renouvellement, ce film fait fort. Après, on parlera d'un classique culte qui se présente plus comme une expérience sensorielle qu'intellectuelle et qui tente, à mon sens, avec une certaine réussite, de faire le point sur le film noir, son apport et ce qu'il nous évoque. Allez, enfilez donc vos barésilles, nettoyez vos porte-cigarettes, vos impairs impeccables parce qu'on décolle pour la deuxième partie du double épisode sur le film noir. Bon voyage à tous! Le privé de Robert Altman durait 1h52. Un détective privé opiniâtre aide un ami à fuir les États-Unis et se retrouve plongé au cœur d'un mystère mêlant une femme fatale, un écrivain alcoolique, un chef-tin mafieux et ses voisines yogis naturistes aux tendances exhibitionnistes. Que reste-t-il en 1973 du code de conduite qui a fait la renommée d'un détective privé comme Philip Marlowe? Et plus avant, qui est Philip Marlowe? Né de l'imagination de l'écrivain Raymond Chandler, Marlowe va être le protagoniste d'une série de romans qui commence en 1934 et se termine en 1953. Différentes adaptations de ces romans vont être portées au cinéma, la première étant Adieu ma belle, réalisée par Edward Mitrick, avec un Marlowe interprété par Dick Powell en 1944. La plus connue de toutes ces occurrences reste à n'en pas douter celle du Grand Sommeil réalisé par Howard Hawks en 1946 où le détective est campé par un Humphrey Bogart au sommet. Le film, pour le moins confus, a été initié par un Hawks qui prend le parti qu'un long métrage peut être un succès malgré une intrigue obscure. Favorisé par l'affaire extra-conjugale qui liait au moment du tournage Bogart à Bacall, Le Grand Sommeil est un succès et est aujourd'hui encore majoritairement reconnu comme l'un des plus grands films noirs, démontrant ainsi que le public se moque de comprendre l'intrigue du moment qu'il passe du bon temps. En 1973, cependant, comme indiqué en introduction de cet épisode, le nouvel Hollywood a débarqué sur nos écrans et c'est un cinéma tout à fait différent de celui dans lequel Marlowe est introduit dans les années 40. Exit les hommes mûrs qui mènent la danse, exit le star system orchestré par les studios qui font signer des contrats et décident du sort de leurs acteurs ou de leurs actrices. Exit aussi une certaine idée de la masculinité, même si, soyons honnêtes, en termes de masculinité, le nouvel Hollywood ne vient pas pour casser le patriarcat et place tout de même à des physiques nouveaux, inattendus et à un rapport à l'interprétation, la réalisation et même à la production complètement différent.
Hey, you know those girls that live next door to you? You know what I think? I think they're a couple of lesbians. That's what I think.
Oh, yeah, what makes you say that?
Well, look at them up there doing all those contortions together and with no clothes on.
Oh, they're just doing yoga.
What?
Yoga. I don't know what it is, but it's yoga.
Yeah, what do they do for a living?
They dip candles.
What?
Yeah, they got a cute little shop over on Hollywood Boulevard. They dip them and sell them.
I can remember when people just had jobs.
Des cinéastes aujourd'hui mondialement reconnus comme Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Brian De Palma ou dans une moindre mesure George Lucas sont les rejetons de ce renouveau. Dans ce lot, le réalisateur du privé est néanmoins un cas à part. À la fin des années 60, Robert Altman a déjà une carrière. Elle est chaotante, complexe, pas vraiment florissante, mais elle existe. Venu de la télé, réalisateur de 3 films déjà, Altman a 20 ans de plus que les réalisateurs que j'ai cités. C'est MASH, la satire pacifiste sur la guerre du Corée sortie en 1970, qui va changer la donne. Palme d'or au Festival de Cannes, récipiendaire de 5 Oscars, le parcours n'a pas été simple pour le réalisateur qui a dû faire face à plusieurs tentatives de licenciement lancées par Donald Sutherland et Elliot Gould lors du tournage. En cause, sa méthodologie particulière et son anticonformisme confinant parfois à l'opiniâtreté, pour le dire poliment. C'est une caractéristique qui va le suivre et qui, bien sûr, sera partie intégrante du privé. Car au fond, son Philip Marlowe, interprété par un Elliot Gould parfait, contre lequel il ne garde apparemment aucune rancune, c'est un peu lui. Un personnage en décalage qui nage à contre-courant et qui obéit à des valeurs qui, au cours des années 70, semblent être en perdition. Loyauté, conscience professionnelle, tolérance et un certain idéalisme, voilà en quoi croit Marlowe à la sauce Altman. Il va bien vite apprendre que si le contenant a peu changé, le contenu du monde qui l'entoure est lui bel et bien différent. Ainsi, on subit avec Marlowe les interrogatoires, les gardes à vue, les agressions, mais aussi le flower power, l'apparition du libéralisme et celle du culte du corps dont il tente de tirer quelque chose tant bien que mal et d'où il ne ressort pas grand-chose si ce n'est qu'un brouhaha incessant et une série d'obstructions. Pour donner cette sensation de blocage, c'est tout le cinéma d'Altman qui est convoqué, à commencer par sa signature sonore, des dialogues superposés qui provoquent un gloubi-boulga assez incompréhensible. Visuellement, Altman multiplie aussi les impasses, les transparences plus ou moins opaques, les obstacles qui empêchent de bien voir et donc de bien comprendre. Tout le monde ment, ou semble mentir, personne ne s'entend et on peut n'y rien comprendre ou presque. Jusqu'à ce que la clarté se fasse et que le film change dans sa physionomie, laissant place à de grandes perspectives et un cinéma plus traditionnel où les dialogues ne s'empiètent pas et où tout est plus lucide. Ajoutez à ça un Sterling Hayden absolument fantastique en écrivain alcoolique et avec un sévère complexe de dieu, et un casting qui l'accompagne tout aussi mirifique, et vous aurez un film à ne pas louper. Si vous aimez les personnages en décalage avec leur réalité, la nonchalance d'Eliot Gould, et si vous aimez les chats, vous devriez aimer Le Privé. Il est disponible sur Prime Video avec le pass MGM. En 1973, on pouvait voir au cinéma Les Aventures de Rabbi Jacob de Gérard Houry, La Fureur de Vaincre de Low Way et Moi y en a vouloir des sous de Jean Yann. La fièvre au corps de Lawrence Kasdan durait 1h53. Avocat à la moralité douteuse et séducteur invétéré, Ned Racine fait la connaissance de Mattie Walker, une femme de l'un des notables de la petite ville de Floride où un été particulièrement étouffant est en train de sévir. Très vite, l'obsession de Ned pour Mattie se transforme en quelque chose d'autre, mais l'avocat sait-il où il met les pieds ? En 1981, Lawrence Kasdan a déjà 2 énormes succès à son actif en tant que scénariste. D'un côté, L'Empire contre-attaque, considéré par beaucoup comme le plus solide et le meilleur des 3 films qui constituent la trilogie originale de Star Wars, et de l'autre, Indiana Jones et les Chevaliers de l'Arche perdue, qui a participé à construire la légende de l'un des personnages les plus iconiques du cinéma moderne. Avec ces 2 hits dans sa besace, le scénariste se dit qu'il peut peut-être réussir à vendre à quelqu'un un projet qui lui est cher, un hommage au film noir. C'est finalement la Ladd Company qui récupère le projet, et Kasdan peut compter sur son ami George Lucas pour officier en tant que producteur délégué, non mentionné au générique d'ailleurs. Le film réussit tout à fait à retranscrire cette atmosphère si particulière que le genre a instaurée dans les années 40, en la transposant aux années 80 et à leur plus grande liberté, notamment sexuelle. Concrètement, c'est un film moite où la tension sexuelle est perpétuelle et presque jamais relâchée, sauf à l'occasion de quelques scènes presque explicites qui deviennent de fait le moteur de l'intrigue. C'est comme si Kasdan avait levé le voile sur les motivations réelles derrière toutes les intrigues et les manigances qui peuplent les films noirs depuis le début de l'existence de ce genre et qui nous disait « si ce n'est pas l'argent, c'est le sexe, et c'est souvent les deux ». À sa sortie, de nombreux médias ont noté et annoncé que le film était un remake du grand classique « Assurance sur la mort » de Billy Wilder. Rien d'officiel n'a été annoncé à ce propos, mais Kasdan n'a cependant jamais cherché à cacher son amour pour ce classique, film fondateur du film noir tel qu'on l'entend, avec en son centre Barbara Stanwyck en femme fatale incroyable. Et puisqu'on parle de femme fatale, on doit parler de la prestation de Kathleen Turner, dont c'est le premier rôle sur grand écran. Tout le film tourne autour d'elle, de son personnage, et sa rendition en est vertigineuse, bien aidée qu'elle est par la mise en scène de Kasdan et la photographie de Richard H. Klein, qui ne manque jamais de la porter au nu, sans mauvais jeu de mots de ma part bien sûr. Elle est sans cesse magnifiée, voilée d'un mystère en perpétuelle mutation, à tel point qu'en tant que spectateur, nous ne savons jamais vraiment sur quel pied danser. Son alchimie avec William Hurt est indéniable, lui dont le personnage est un véritable feu follet. Chaud comme la braise, il est sans cesse en train de fondre sur les femmes qu'il croise et ne semble ni vouloir ni même pouvoir s'arrêter. Et on tient là la raison pour laquelle son association avec Matty, Kathleen Turner, fonctionne si bien.
You're the one that doesn't like to talk about the heat. Too bad. I tell you about my chimes.
What about them?
The wind chimes on my porch. They keep ringing, and I go out there expecting a cool breeze. That's what they've always meant. But not this year. This year, it's just hot air.
Do I remind you of hot air?
Matty est associé dès sa première apparition au vent. C'est le vent au concert où les deux se croisent, celui qui fait chanter les carillons sur son balcon. Elle est à ce titre complètement insaisissable. Bien plus encore que le feu sur lequel elle va souffler doucement au début puis de plus en plus fort. Et c'est au rythme du crépitement des braises que nous allons nous avancer dans le film, parfois en naviguant à vue et en requalifiant la relation de Ned et de Matty à mesure que nous nous enfonçons dans le brouillard floridien. Car oui, autre pas de côté par rapport à la tradition du film noir, Kasdan choisit de placer son hommage non pas à New York ou à Los Angeles, bien souvent le théâtre d'un genre pour le moins urbain, ou du moins où la corruption qui est attachée aux grandes villes joue un rôle prépondérant, mais en Floride. Et même pas à Miami, mais dans un bled sur la côte ouest de la Floride, un sacré pari quand on veut rendre hommage à un style si influent. Pour accompagner cette exploration, il faut bien entendu parler de la musique de John Barry, qui, à l'image du film, a tout intégré des influences du genre du film noir, mais cherche aussi à les mettre à jour. Et sans surprise, le compositeur y parvient parfaitement, avec une partition emplie de mystères et de clins d'œil aux nombreux thèmes qui l'ont précédé. L'inébranlable saxophone sur lequel on pourrait aisément imaginer une voix off, et le piano se marient à la perfection avec la guitare basse et le synthétiseur. Ils sont rejoints par un petit orchestre de cordes parfaitement à propos. L'ensemble du score est somptueux et participe pour beaucoup à donner au film cet écrin si particulier, à cheval entre rendu orchestral grandiose et petit comité plutôt jazzy, entre tradition de l'après-guerre et néo-noir bien ancré dans son époque très 80s. En dire plus sur ce film, ce serait vous en révéler trop, mais sachez simplement qu'à la fin de La Fièvre au corps, il n'y a pas d'excuse, pas de rédemption. Si on en doutait, on est vraiment sorti du cadre du Code Hays. Si vous aimez le film noir tel que vous l'avez peut-être découvert en novembre dernier dans Cinécure, si vous êtes amateur ou amatrice d'érotisme à la sauce des années 80, et que la moiteur ne vous fait pas peur, La Fièvre au corps est fait pour vous. Il est disponible à la location sur Univers Ciné pour la somme de 2,99€. En 1981, en France, on pouvait voir dans les salles obscures La Chèvre de Francis Weber, Elephant Man de David Lynch et Salut l'ami, adieu le trésor de Sergio Corbucci. Bound des sœurs Wachowski, durée 1h49. Corky, une ex-prisonnière lesbienne, tente de gagner sa vie correctement en faisant des travaux de rénovation dans un appartement huppé de Chicago. Un peu par hasard, elle fait la connaissance de sa voisine, Violet, une bimbo fiancée à un escroc qui travaille comme comptable pour la mafia. Au début innocente, cette rencontre va donner des idées aux deux femmes. Pendant des décennies, le film noir nous a raconté comment un homme, naviguant sur la frontière du bien et du mal, pouvait en retirer un profit personnel, ou bien faire jaillir une vérité bien souvent désagréable à entendre. Le film noir nous a aussi souvent raconté comment une femme, mal intentionnée, réussissait à atteindre ses objectifs en usant de ses charmes et en désarmant de la sorte les hommes qui auraient pu se mettre sur son passage. Vous l'avez bien compris, pendant des décennies, le film noir a été un véhicule à la gloire des hommes. Et des hommes tels que l'industrie hollywoodienne voulait bien nous les montrer. Courageux, spontané, engagé et profondément bon. Tout à fait le contraire de ce que, on l'entrevoit aujourd'hui, cette industrie est parvenue à créer. On a vu avec la fièvre au corps que ce statu quo a évolué. Mais il faut attendre la fin des années 90 pour vivre un véritable renversement des valeurs en place, comme jamais plus on en a vu, ou presque. En 1996, deux scénaristes sont décidés à conquérir Hollywood. Elles sont sœurs et ont écrit un scénario qui mêle science-fiction et philosophie avec une bonne dose d'action en convoquant à la fois les films de kung-fu et les actionneurs à l'américaine. Il y est question de robots qui dirigent le monde, de questionnement de notre réalité, et pour le moment, le moins que l'on puisse dire, c'est que bien peu de studios se montrent intéressés pour que ce film soit le premier du duo de réalisatrices. À la faveur de plusieurs négociations néanmoins, Warner Bros. Accepterait de produire ce film si et seulement si les sœurs pouvaient d'abord réaliser quelque chose de plus modeste. Auraient-elles dans leur sac quelque chose d'autre que ce Matrix ? Et il se trouve que oui, Lily et Lana Wachowski ont autre chose. Ce quelque chose, vous l'avez compris, c'est Bound, un néo-noir qui place en son centre un couple de femmes. On y retrouve bien sûr la frontière entre la légalité et ce qui en dépasse, et puis bien entendu la femme fatale, sauf que... Dans ce film, les Wachowski refusent de jouer le jeu du genre qui a irrigué la culture populaire depuis si longtemps. En mettant au centre de leur intrigue deux femmes qui tombent amoureuses l'une de l'autre, les deux réalisatrices cassent déjà un ensemble de règles qu'il est encore aujourd'hui surprenant de voir briser. Comment ont-elles pu, au cœur d'un système qui sort des années 80 où la surpuissance masculine a été omniprésente et où l'on s'apprête à entrer dans une ère où le cinéma pour adultes va disparaître au profit des super-héros et des intrigues adaptées à toutes et à tous, comment ont-elles pu, disais-je, imposer ce choix ?
I had to see you. Look, I don't think this is a good idea.
I wanted to apologize.
Please, don't apologize. There's one thing I can't stand is women who apologize for wanting sex.
I'm not apologizing for what I did. I'm apologizing for what I didn't.
Penser qu'en 1996, un personnage lesbien avait le rôle principal d'un film noir, produit et distribué par Warner Bros., aux côtés qui plus est d'un personnage à tout le moins bisexuel, donne un peu le vertige quand on voit dans quelle ambiance on évolue aujourd'hui dans le cinéma grand public. Le vertige en est d'autant plus grand quand on voit que ce n'est pas juste de la sexualité sur le papier. Les scènes de sexe explicites sont centrales pour l'intrigue, en ce qu'elles enseignent beaucoup sur les motivations des personnages de Corky et Violet. Et je ne vous ai pas encore parlé du propos du film. Dans leur mise en scène, dans leur dialogue, les sœurs Wachowski s'emploient à discréditer tous les hommes qui apparaissent dans le film. Violents, grossiers, bêtes et très très imbus d'eux-mêmes, jamais ils ne pourraient s'imaginer que deux femmes sont en train de tenter quelque chose dans leur dos. Dans le même film, elles présentent deux personnages qui vont agir non pas contre les hommes mais dans leur dos. Pour y parvenir, elles utilisent deux choses. L'une, sa sexualité et son physique androgyne, qui dérange particulièrement le personnage de César. L'autre utilise tout ce que les hommes aiment d'elle, son physique, son air ingénu, pour enjôler tous les hommes et pour mieux les trahir. En refusant le statu quo, les cinéastes donnent un coup de pied dans la fourmilière et nous font réfléchir non seulement à notre place en tant qu'hommes dans la société, mais en plus dans la culture populaire. Qui sommes-nous ? Qu'avons-nous apporté de si précieux ? Pourquoi une industrie entière est-elle dédiée à notre grandeur quand on voit bien que rien de tout cela n'est si grandiose ? Jusqu'au dernier moment, nos schémas de pensée, nos habitudes de spectateurs et de spectatrices, et particulièrement si vous êtes un homme ou que vous vous identifiez comme un homme, je pense, interrogent l'action de Corky et Violet sur sa viabilité. Les Wachowski ne lâchent rien de leur mordant et le film nous embarque. C'est le dernier voyage d'un genre qui a tant donné à cette culture et il remet tout en question. Il interroge, il dialogue en permanence avec tous les films qui l'ont précédé. Je ne veux pas en dire plus parce que je pense sincèrement que je vous en ai déjà trop dit. Mais c'est un film qui est d'une actualité brûlante et qui a ouvert la voie à Matrix, auquel d'ailleurs la Warner ne croyait absolument pas, et qui s'est révélé être le succès absolu que l'on sait. Beaucoup des thématiques qui peuplent Matrix sont abordées ici, et rien que pour ça, Bound vaut le coup d'œil. Si vous aimez les films qui remettent en cause ce qui les a précédés et leur public, si vous aimez les ambiances de Mafia Movies et que vous aimez être pris dans une intrigue sans jamais être relâché, vous allez alors adorer Bound des sœurs Wachowski. Le film est disponible sur Mubi ou bien sur Canal+. En 1996, on pouvait voir sur grand écran Independence Day de Roland Emmerich, Pédale douce de Gabriel Aguillon et Trainspotting de Danny Boyle. Mulholland Drive de David Lynch, durée 2h26. Une limousine serpente sur les hauteurs de Los Angeles et est prise dans un accident de voiture mortel. Seule survivante, une femme prend la fuite et trouve refuge chez Betty, une jeune aspirante actrice qui occupe l'appartement de sa tante sur Sunset Boulevard. Quand elle comprend que sa visiteuse est amnésique, Betty propose de l'aider à comprendre qui elle est. S'ensuit une enquête qui va explorer les tréfonds de Hollywood. Je n'avais vu Mulholland Drive qu'une seule fois dans ma vie lorsque j'étais étudiant et que je commençais à peine à m'intéresser au cinéma. Un ami nous avait proposé un après-midi de regarder ce film qui avait déjà à l'époque, donc quelques 2 ou 3 ans après sa sortie, la réputation d'être incompréhensible. Après le visionnage, nous nous étions entretenus tous et toutes et avions conclu qu'effectivement ce film était parfaitement incompréhensible. Certains d'entre nous allaient jusqu'à émettre des doutes sur la soi-disant intellectualité du film et avançaient qu'il s'agissait carrément d'un gros navet bien prétentieux. Comme le dit l'adage, il faut bien que jeunesse se passe pour que vieillesse se fasse, et me revoilà près de 20 ans après à revoir ce film qui apparaît sur bon nombre de listes de films noirs au moment où je prépare cet épisode et je me tâte. Je me dis que ça pourrait être une vraie belle manière de conclure ce double épisode et en même temps je me dis mais comment relier ce film au genre du film noir? Comment relier ce film à quoi que ce soit? Cette interrogation m'habite au moment où je m'apprête à lancer le film. 2h26 plus tard, j'ai encore une fois appris à quel point il est riche en enseignements de revoir des films. Dans ce monde où je n'ai plus 20 ans mais presque 40 et dans lequel MeToo est une réalité, Mulholland Drive n'a rien d'un film obscur et incompréhensible. Bien sûr, sa forme déroute, ce n'est pas pour rien que celui-ci reste à ce jour un des films les plus discutés au monde, mais ce n'est pour moi que le résultat d'un constat de Lynch qui a cherché le véhicule parfait pour délivrer son message. Or, incidemment, ce message est l'un des plus importants que le film noir a porté depuis que le genre existe.
Look, where's this going? What do you want me to do?
There's sometimes a buggy. How many drivers does a buggy have?
One.
So let's just say I'm driving this buggy. And if you fix your attitude, you can ride along with me.
Okay.
I want you to go back to work tomorrow. You were recasting the lead actress anyway. Auditioned many girls for the part. When you see the girl that was shown to you earlier today, you will say, this is the girl. The rest of the cast can stay, that's up to you. But that lead girl is not up to you. Now you will see me one more time if you do good. You'll see me 2 more times if you do bad.
Souvenez-vous, en introduction de l'épisode précédent, il y a quelques mois donc, je vous parlais de la femme fatale, l'une des deux figures les plus représentatives du film noir, dans ses termes. Figure inventée par une industrie patriarcale par excellence qui fantasme une représentation de tout ce qu'elle craint le plus. Que ce soit dans La fièvre au corps ou encore plus dans Bound, on a vu que cette façon de penser ce personnage est centrale dans le néo-noir. Dès le premier, sa sexualité débordante permet à Matty Walker de ne pas être sous contrôle masculin et de décider de sa destinée. Dans le second, c'est en assurant les figures patriarcales de leur faiblesse et de leur naïveté, et donc de leur nécessité d'être sauvées et protégées, que Violet et Corky se libèrent de leur joug. Lynch continue cette exploration, mais lève le voile sur le glamour que l'image de la femme fatale trimballe et montre crûment comment l'industrie qui les a créées les traite en réalité. Peu importe au final que la première partie soit un rêve et la deuxième la réalité, en premier lieu parce qu'il pourrait parfaitement s'agir de l'inverse, mais en second lieu parce que ce qui traverse tout le film, c'est la misogynie, la haine même des femmes, qui les transforme à la fois en victimes et en bourreaux. Ainsi, de nombreuses scènes mettent en lumière des relations tendues, voire même agressives entre femmes. Les hommes sont globalement absents de ces scènes parce qu'ils sont sur un niveau à part, un niveau que l'on peut qualifier de décisionnaire et qui, de fait, impose son bon vouloir de façon arbitraire, victimisant à chaque fois de potentiels talents. Ce qui me frappe rétrospectivement, c'est bien sûr la relation unique qui lie Rita et Betty dans la première partie, Diane et Camilla dans la deuxième, et qui est centrale dans ce film. Une telle relation est-elle possible à Hollywood? Chaque scène nous emmène plus loin dans cette interrogation. Quelle relation nouons-nous autour du cinéma? Aux dépens de qui celle-ci se fait-elle? Comment vit-on nos émotions? Qui les fabrique? Le film ne répond véritablement à aucune de ces interrogations parce qu'il ne prend nullement position. Il montre et par sa forme, entre autres, interroge. Et il le fait, c'est aussi en ça que le film est fantastique, à la fois en rendant un hommage vibrant à l'industrie hollywoodienne, à ce qu'elle a créé en termes de personnages, de rêves et d'inspiration, sans oublier de porter sur elle et sur la ville qui l'accueille un regard cru, froid, terrible même. Lynch est dans ce sens un cinéphile pur jus. Il n'est pas dupe de la forme d'art dont il est amoureux, mais il ne peut pas s'en détourner pour autant. C'est, il me semble, la marque d'un très grand film. Si vous aimez le film noir en général, la figure de la femme fatale en particulier, si vous êtes un ou une vraie cinéphile, si tant est que vrai cinéphile veuille dire quelque chose, si vous ne l'avez jamais vu, vous ne pouvez pas manquer Mulholland Drive de David Lynch. Il est disponible sur Canal+. En 2001, sortait en France Le fabuleux destin d'Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet, Shrek de Vicky Jenson et Andrew Adamson, et Les autres d'Alejandro Amenábar. Et bien voilà, après presque un an de pause, ce double épisode sur le film noir et néo-noir est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné envie d'aller en découvrir d'autres. Je vous conseille à ce titre l'excellent compte Instagram @nocontextesnoirs qui publie très régulièrement des extraits de films noirs, toutes époques confondues. Si cet épisode vous a plu, je vous encourage à vous abonner déjà et à noter le podcast 5 étoiles si votre plateforme le permet. Il n'y a rien de mieux pour le référencement. Vous pouvez aussi en parler à vos proches, le cinéma c'est toujours mieux quand c'est partagé. Je vous rappelle que tous les films conseillés ce mois-ci sont disponibles en description de l'épisode avec les liens vers les plateformes qui les diffusent. Par ailleurs, vous pouvez trouver tous les films recommandés depuis le tout premier épisode de Cinécure dans une liste Letterboxd dont vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux où j'officie en tant que @charledy, autant sur Instagram que sur Letterboxd. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord du vaisseau Hypersensas en général et le channel Cinécure en particulier en cliquant sur l'invitation en description de cet épisode. Nous avons mis en place un ciné-club avec une watch party et discussion du film choisi. Rejoignez-nous. Cinécure est un podcast créé, produit et réalisé par Charles-Edouard Wasselin, c'est moi, pour Vaisseau Hypersensas, dont je remercie tous les membres pour leur bienveillance et leur patience. On se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode de Cinécure. En attendant, prenez bien soin de vous, découvrez plein de films. Ciao.